à tous et bienvenue sur la dernière radio libre de francophonie. Rupture dans la communication. Aujourd'hui, un dirigeable de plomb s'est abattu sur les rivages de la Nouvelle-Angleterre. Retour sur la mort du psychédélisme. Ce soir, je vous emmène dans les tréfonds de l'année 1969. Je vous avais déjà un peu parlé de l'ambiance de cette fin des années 60 dans notre épisode sur Charles Manson. Mais aujourd'hui, j'aimerais plutôt vous présenter un groupe qui, volontairement ou involontairement, a aussi participé à la fin de cette époque. Ce groupe, c'est Led Zeppelin, un groupe anglais qui non seulement rassemble 4 des meilleurs musiciens de sa génération, fonde les bases d'un nouveau genre, le hard rock, tout en métamorphosant le psychédélisme pour bouleverser l'histoire de la musique populaire. À tel point qu'aujourd'hui, il n'est pas déraisonnable de dire que Led Zeppelin, c'est le son des années 70. Le phénix qui est né des cendres de Woodstock, de Jimi Hendrix et des Beatles, pour hanter de sa noirceur toute la décennie qui suivra. Tout ça, comme à notre habitude, en face A, face B, avec des morceaux tirés des premiers albums de Led Zeppelin, avec un commentaire en toile de fond afin de répondre à la question « Led Zeppelin, c'est qui ?» ou plutôt « C'est quoi ?» et quelle est leur place dans l'histoire générale des musiques du XXe siècle. Led Zeppelin sort son premier album en 1969, intitulé tout simplement « Led Zeppelin », et que les fans appelleront « Led Zeppelin 1 », comme le deuxième album qu'ils appelleront « Led Zeppelin 2 », le troisième « Led Zeppelin 3 » et le quatrième « Led Zeppelin 4. Or, le premier album de 1969 s'intègre dans un contexte particulier. 1968, ça avait été l'année des révoltes étudiantes. Un espoir de changement en Europe, bien sûr, à Prague, Rome, Paris, Varsovie, même Zurich se met à manifester pour légaliser un squat, et aux Amériques, vous avez le lundi de la matraque au Canada et le combat pour les droits civiques qui continue aux États-Unis. Là-bas, la police tire sur les manifestants. Sans oublier les assassinats, 1968, c'est la perte de Martin Luther King, Robert Kennedy, l'élection de Richard Nixon et l'intensification de la guerre au Vietnam. On dirait presque que, dans cette ambiance de révolution, un autre monde est en train de naître. 68 avait donc été une année puissante et même musicalement, les Beatles sortent leur fameux album blanc, les Stones leur Beggar's Banquet, le troisième album des Doors, Waiting for the Sun, est un succès absolu. On est alors au sommet de l'ère psychédélique. Jamais la musique populaire n'avait été si féconde, si hétérogène, si révolutionnaire. On écoute des groupes comme Jefferson Airplane, Cream, Sly and the Family Stone, Jimi Hendrix, les Temptations, Steppenwolf. 68, c'est aussi l'année de Born to be Wild. Bref, la bande-son 1968 est loin d'avoir été dégueulasse. Si vous avez suivi notre épisode sur Charles Manson, vous vous souvenez que l'année qui suit, 1969, ne sera pas aussi gaie et excitante que la précédente. Et c'est normal, on touche à la fin des années 60, la croissance ralentit, on arrive au terme des 30 glorieuses, les années 70 s'annoncent beaucoup plus sombres. Imaginez, cette génération de boomers n'a pas encore connu ni de pandémie mondiale ni de choc pétrolier, c'est donc tout naturellement que l'année 1969 voit l'arrivée d'une musique différente, plus sombre, moins naïve, plus brute, et plus agressive encore. Doucement, le rock psychédélique va se rigidifier pour devenir ce qu'on appelle aujourd'hui le hard rock. Et Led Zeppelin, c'est un peu le groupe qui va opérer cette transition. Led Zepp, c'est surtout 4 petits gars venus d'Angleterre, Robert Plant au chant, Jimmy Page à la guitare, John Paul Jones à la basse et John Bonham à la batterie. A l'origine, chacun avait sa petite vie de son côté, Robert Plant avait eu quelques groupes de blues de la région de Birmingham, mais le plus connu, c'est le guitariste Jimmy Page, lequel jouait dans un groupe plutôt célèbre de l'époque, les Yardbirds. Groupe assez phénoménal puisqu'il a quand même réuni des monstres sacrés de la guitare, Jimmy Page on l'a dit, mais aussi Eric Clapton et Jeff Beck. Jimmy Page, avant d'intégrer les Yardbirds puis Led Zeppelin, fait ses armes en studio. Il est ce qu'on appelle un requin studio, c'est-à-dire ces musiciens qui travaillent pour un studio et qui proposent leur talent au groupe venant s'enregistrer. Et donc avant les Yardbirds, il a prêté sa guitare de nombreuses fois entre 65 et 68, notamment pour Goldfinger, la bande originale du film James Bond, où vous l'entendez jouer de la guitare acoustique. Il joue aussi pour des petits groupes anglais, rien de bien fameux, mais de quoi remplir son frigo. Souvent, les requins de studio sont des musiciens très techniques, qui savent tout jouer, ils peuvent apprendre des partitions complexes en très peu de temps, ils savent aussi très bien improviser, ce sont de véritables couteaux suisses de la musique de studio. Des virtuoses, certes, mais ça n'en fait pas nécessairement des génies. Parfois, on leur reproche un manque d'originalité, un jeu impersonnel, et c'est souvent la raison pour laquelle ils sont mal considérés dans le milieu de la musique. Ce qui n'est pas le cas de Jimmy Page, qui très vite quittera les studios pour intégrer les Yardbirds. Il remplace Eric Clapton, qui souhaite se lancer en solo, mais les Yardbirds, en 68, ce n'est plus trop ça. Certains membres sont partis, Jimmy Page cherche donc à les remplacer et il pense à un vieil ami, Robert Plant, avec qui il a déjà joué. Robert Plant ne viendra d'ailleurs pas seul, il emmène avec lui celui qu'on considère comme le batteur le plus bruyant d'Angleterre, John Bonham, un type qui joue si puissamment qu'il a l'habitude de déchirer les peaux de sa batterie. Voilà en tout cas la folle équipe qui va remplacer les Yardbirds. Ce groupe, on l'appelle les New Yardbirds, mais très vite ils se feront appeler par leur nom légendaire qu'on connaît aujourd'hui, Led Zeppelin. La légende veut que ce soit Keith Moon, le batteur des Who, qui aurait trouvé le nom de Led Zeppelin. Après avoir entendu ce son lourd, cette batterie forte et cette voix venant d'outre-tombe, il se serait écrié « Ce que vous faites les gars, c'est comme un dirigeable de plomb, un Zeppelin en plomb, Led Zeppelin ». Le 19 août 1968, Led Zeppelin organise donc sa toute première répétition. Ils y jouent des morceaux qui feront le succès de leur premier album. Souvent, ils reprenaient de vieux folk blues sur lesquels ils improvisaient en répétition ou en live. Ce qui est sûr, c'est que leur premier album fut composé en un temps record. Et en face A de cet épisode, je ne vous ai pas choisi un morceau du premier album de Led Zeppelin, déjà parce que cet album est largement connu, et je préférais vous faire découvrir des pistes plus méconnues, rares ou cachées. Et ça tombe bien car Led Zeppelin, c'est l'un des groupes qui ont produit le plus de bootleg. Le bootleg, c'est un enregistrement souvent pirate d'une chanson qui ne se trouve pas sur des albums officiels, soit des répétitions, des prises laissées de côté, parfois des chansons à part entière, carrément ignorées. Certains artistes seront d'ailleurs des véritables spécialistes du bootleg, Bob Dylan par exemple, qui ne peut véritablement être apprécié sans passer par ses bootlegs étant donné que ses meilleures chansons ne sont pas sorties sur des albums officiels. Bref, pour revenir à Led Zeppelin, je vous propose ici un bootleg, le tout premier disque de Robert Plant, un 45 tours qu'il sort alors qu'il n'a que 17 ans. On est alors 3 ans avant Led Zeppelin, la voix n'y est pas aussi rock ici, l'ambiance est plutôt soul américaine, un peu à la mode des mods américains, ceux-là même qui seront biberonnés aux Who, Kinks, Small Faces ou à la Northern Soul. Ce qui est sûr, c'est que la performance vocale est quand même là, gravée sur un disque qui n'a jamais vraiment connu le succès et que j'espère vous ne connaissez pas. Robert Plant avec You'd Better Run en 1966. Yours. Now I'm closing all the doors. What you trying to do to my heart?
You better run, you better hide, you better leave from my side.
Yeah, what you trying to do to my soul? What you trying to do to my soul? Every time I see your face, see you in another place. What you trying to do to my soul? Yeah.
You better run.
Girl, love you so, can't you see? Don't you know? I can't stand your alibis. Tell lies, tell me why. Said I want you back home. What you trying to do to my head? Oh, what you trying to do to my head? Every time I see your face, I see you in another place. What you trying to do to my head?
You better run.
Yeah, girl.
You better hide.
Leave me, baby.
You better leave from my side.
I'm gonna keep on walking. Keep on walking. Gotta get away.
Le 12 janvier 1969, vous vous rendiez chez votre disquaire favori et vous trouviez cet album à la pochette bizarre, une photo en noir et blanc très contrastée d'un dirigeable qui prend feu. Premier album d'un nouveau groupe, au-dessus, le nom Led Zeppelin inscrit en couleur. Le disquaire vous dit que ça ressemble un peu à du Cream, du Jimi Hendrix, Deep Purple ou les Who, mais pas exactement non plus, c'est assez unique. Alors vous avez ramené le disque à la maison, vous l'avez posé sur la platine, sans savoir que le son qu'il renfermait était celui qui allait annoncer la nouvelle décennie. Ce 12 janvier 1969, vous entendiez ça. Times, Bad Times, une chanson pop-rock, une sorte de Beatles un peu brute de décoffrage, et qui commence avec cette batterie et ce riff, une chanson aussi violente qu'étrange, vous voilà sur la première piste du premier album de Led Zeppelin. Good Times, Bad Times, ce sera aussi le premier 45 tours du groupe, avec sa guitare saturée, son rythme lancinant, et cette voix, celle de Robert Plant, comme sortie d'un ailleurs, le paradis, l'enfer, on ne sait pas. Led Zeppelin, c'est mystique. Dès le premier disque. Par contre, ce qui vous a vraiment mis une gifle, c'est le son de la guitare. Un peu comme les Beatles ou les Stones avant eux, Jimmy Page enregistre sa guitare dans une cabine Leslie, un dispositif technique de studio. Vous enregistrez votre guitare, vous la branchez à la cabine, et vous obtenez un vibrato comme si le son de la guitare tournait sur lui-même. Soit, c'est un pur son des années 60, psychédélique, on dirait les Who, mais avec un peu plus de gras, les Beatles avec du fuzz. On est bien dans la musique de 1969, puissante, directe, expérimentale. Et à la minute 30 de ce premier disque, second gifle, un solo qui lui aussi vient d'ailleurs, c'est tout naturel puisqu'il vient du futur, ce solo, c'est le son des années 70. Des guitares endiablées, vous en aviez déjà entendu un petit paquet, ça avait commencé avec Chuck Berry dans les années 50, puis vous aviez été frappé par les Rolling Stones, les Who, sans oublier Jimi Hendrix, le Grateful Dead, Alvin Lee, Eric Clapton, j'en passe et des meilleurs. Les guitares ne sont plus de simples instruments à cordes, amplifiés et distordus, elles deviennent de véritables instruments qui produisent des sons jamais entendus à l'époque. La guitare se met à chanter des notes totalement nouvelles, une scie qui déchire du métal, un train qui déraille, une sirène anti-aérienne qui chante le blues. Les guitares des années 60 bouleversent tout. Elles ne servent plus qu'à la richesse harmonique d'un morceau ou à l'accompagnement choral, elles deviennent le timbre du morceau, son ambiance. Avec les deux premiers morceaux de l'album, Good Times, Bad Times et Babe, I'm Gonna Leave You, on est dans du blues qui tâche. Comme on pouvait très bien l'entendre avec Cream, le groupe d'Eric Clapton, mais c'est surtout avec les chansons suivantes qu'on se dit « D'accord, on est toujours dans le psychédélisme. » Un orgue qui hurle, un harmonica avec de la réverbe, des guitares saturées avec des solos qui n'en finissent pas, voilà comment je pourrais vous résumer les chansons « You Shook Me » ainsi que « Dazed and Confused », véritable chant du cygne du psychédélisme. On sent que le Flower Power, Jefferson Airplane, Bob Dylan, la naïveté de 66-67, c'est fini, il va falloir jouer plus fort, crier plus fort, souffrir plus fort. 69, c'est la fin du rêve psychédélique, le rock se durcit, il devient peu à peu hard rock. Et le hard rock, on le touche de près quand on arrive à Dazed and Confused, quatrième chanson du premier album de Led Zeppelin. Une descente de basse infernale avec des guitares qui hurlent des notes graves et aiguës, aussi hypnotisantes qu'angoissantes. Led Zeppelin, c'est un peu du métal hurlant qu'on découpe sous acide dans l'humidité du Mississippi. On sent très bien que Black Sabbath n'est plus très loin. Led Zepp, c'est un groupe qui produit des sons très travaillés en studio, mais c'est aussi un groupe de live, des concerts d'une énergie sans pareil, avec des improvisations qui n'en finissaient pas. Et ça, les parties improvisées en live, ça se faisait déjà dans le jazz depuis 50 ans. Et dans le rock, en 69, on est déjà habitué au long solo de Jimi Hendrix, 13 minutes de Voodoo Child, en live à Stockholm. En 66, à Londres, Pink Floyd a improvisé 18 minutes sur Interstellar Overdrive. Les improvisations fleuves, c'est aussi la spécialité du Grateful Dead, des chansons de 20, parfois 30 minutes. Il faut le dire, les grands solos de guitare, les breaks à tire-larigot, c'est plutôt récent mais pas nouveau. Depuis que Bob Dylan avait sorti en 1966 Sad-Eyed Lady of the Lowland, une ballade de 10 minutes qui prenait toute la face d'un album, eh bien à partir de ce moment, tout était permis. La longueur s'était invitée dans les disques et sur les scènes, ici Led Zeppelin n'invente rien, par contre, ils vont pousser l'improvisation au plus haut niveau technique. Et la chanson Dazed and Confused, le dernier titre de la première phase du disque, c'est totalement ça. Une prouesse technique, une invention studio, mais qui aura aussi ses interprétations légendaires en live, 25 minutes d'improvisation dans un concert californien de 1972, 41 minutes à Seattle en 75. Et encore, en concert, Jimmy Page jouait ce morceau avec un archet de violon complètement surréaliste. Ce qui est comique, c'est que cette chanson, Dazed and Confused, n'a pas été composée par Led Zeppelin. Non, c'était une chanson de l'époque des Yardbirds. Ils l'ont jouée en concert, mais jamais enregistrée. Jimmy Page, alors guitariste des Yardbirds, la jouera souvent en live. Il la reprendra tout naturellement avec Led Zeppelin pour en faire la chanson qu'on connaît aujourd'hui. Et ce sera la face B de ce soir, Dazed and Confused par les Yardbirds, avant qu'ils ne deviennent Led Zeppelin. Alors vous n'entendrez pas ici les gémissements terrifiants de Robert Plant, il n'a pas encore intégré le groupe, ni les sons bizarres qui vous rappellent la violente redescente de Bad Trip, non, rien de ça. Par contre, la guitare de Jimmy Page, elle, est déjà là. Voici les Yardbirds pour Dazed and Confused, un an avant la sortie de Led Zepp 1, encore à bootleg, une sorte de grande répétition du groupe légendaire qu'ils deviendront en 1968.
and confused, hanging on by a thread. I'm being abused, I'd be better off dead. If you're out to get me, you're on the right track. Quitting teasing, I'm starting to crack.
Led Zeppelin, c'est donc un peu tout ça. Un groupe psychédélique qui prendra tout ce qu'il y a de plus dur et de plus technique dans le rock pour ouvrir la voie au hard rock des années 70. Cette petite révolution dans l'histoire de la musique, elle est encore une fois venue d'Angleterre, puis s'est développée en Amérique. Comme les Beatles l'avaient fait 8 ans plus tôt, Led Zeppelin redonne vigueur au rock, il le réinvente, et ce, en réinterprétant les genres du passé, le blues, le folk, et le jazz, quant à lui, n'est jamais vraiment très loin. Mais alors, en quoi Led Zeppelin participe à la mort du psychédélisme? Eh bien, les Beatles ont mis un terme au rock'n'roll en le réinventant, Led Zeppelin termine le psychédélisme en le dépassant. Les drogues de l'été 68 avaient ouvert des portes dans la perception. Des expérimentations, des improvisations qui n'avaient jamais été vues dans les musiques populaires, le psychédélisme n'a pas été qu'un genre musical, ça a été un renversement dans la perception des choses. La musique de cette décennie a bouleversé la manière de faire de la musique, de produire des sons, de les écouter et de les jouer. Mais le tournant des années 70 sera beaucoup plus sombre, on l'a dit, ce qui nous a fait dire dans un précédent épisode qu'il y a eu Woodstock et puis Charles Manson. La première prise, tendre et inspirante, et puis la redescente, froide et délirante. Les années 70 seront d'ailleurs celles de la reprise en main, la désillusion après les 30 glorieuses, lorsqu'on se rend compte que notre mode de vie n'est plus viable. Que la croissance infinie n'est pas possible, l'idéal des hippies et de mai 68 se fracasse sur le mur du choc pétrolier. Et le signe de cette crise, il se ressent dans la musique. Cette musique nouvelle a dû se rigidifier pour faire face aux tragédies de son époque, sortir ce qu'elle avait de plus dur d'elle-même, comme pour faire face à la désillusion qui vient. C'est ce qui fait dire à André Malraux que ces années 68, 69, 70 sont des années de crise pour l'Occident. Un monde libre, en perte de repères, en crise économique, sociale, spirituelle, comment croire à l'amour, à la bière et au câlin quand on enflamme le Vietnam ou quand on affame la Mandchourie? Ce que Led Zeppelin tente de dire, et le hard rock avec lui, c'est que l'Occident vit encore, le psychédélisme aussi, par le bruit qu'il fait, et celui des années 70 sera puissant. Les amplis vont se multiplier, les cris, les hurlements, les mélodies de plus en plus sombres, l'amour du son pour le son. Alors les guitares vont crier comme jamais, et le volume sera poussé au maximum, car de toute façon, il ne reste plus que ça, un ultime espace de liberté dans un monde qui se referme. Et c'est pour ça que Led Zeppelin est un groupe crucial pour comprendre les changements qui se sont opérés dans cette époque, au tournant des années 70. Leur musique incarnait ce changement, cette perte progressive d'espoir, un rock véritablement baroque. Le psychédélisme est mort, mais il y aura autre chose. Led Zeppelin, c'est un peu comme si l'homme avait ouvert la boîte de Pandore et qu'il n'y avait trouvé que du noir. Le cri solitaire d'un monde qui se détruit, mais qui ne veut pas mourir. Et ça, ce n'est que le premier album, la suite n'en reste pas moins fantastique. Led Zeppelin n'en est qu'à ses débuts et les bases sont à peine posées. Certes, les années 70 s'annoncent sombres, mais la musique, elle, sera étincelante. J'espère vraiment que cette balade à travers les tout débuts de carrière de Led Zeppelin vous a plu. Je ne peux que vous conseiller d'aller écouter le premier disque du groupe ainsi que le second en méditant sur le bouleversement culturel que cette musique a pu créer chez ceux qui ont entendu ça pour la première fois en 1969. Je vous laisse pour ce soir avec un dernier bootleg, Communication Breakdown de Led Zeppelin, interprété live sur une télévision danoise le 17 mars 1969, au tout début de leur carrière. Un grand merci de votre écoute, Communication Breakdown, bonne nuit. We'll be right back.
that's what I want. Communication breakdown, it's always the same. Having a nervous breakdown drives me insane.